Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, je vais avoir la chance d'interviewer le bloqueur de l'Université Syracuse, Mathieu Bergeron. Alors Mathieu qui va venir nous parler notamment de son cheminement, de ses ambitions pour la saison qui s'en vient, mais au-delà de tout ça. Ensuite de ça, bien, on va parler des Alouettes parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées du côté de l'actualité de l'équipe montréalaise. Il y a eu un changement au poste d'entraîneur-chef, Kerry Jones qui a été congédié. Le directeur général Danny Machocha qui porte maintenant deux chapeaux, celui de DG ainsi que celui d'entraîneur-chef maintenant. Et comme à l'habitude, on va terminer en beauté avec Marc-André Chaloux qui va venir nous donner ses conseils en vue du fantasy football. On sait que les camps d'entraînement de la NFL vont commencer à la fin du mois, donc ça arrive très vite. Les camps vont commencer, les repêchages fantasy également. Alors si vous écoutez à toutes les semaines le podcast Le Sac du Cœur, ben, grâce aux conseils de Marc-André, vous devriez en théorie être prêt à votre repêchage et à dominer votre ligue de fantasy football. Mais sans plus tarder, on va accueillir Mathieu Bergeron de l'Orange de Syracuse. Mathieu, écoute, premièrement, je te remercie d'avoir accepté mon invitation au podcast.
Ben non, merci à toi de m'avoir invité. Là. Je suis choyé d'être sur un podcast que j'écoute régulièrement. Là. Donc, je suis choyé d'être ici.
Ah ben c'est bon, j'aime ça entendre ça, que tu écoutes ça, que tu télécharges un podcast régulièrement, ça c'est excellent. Écoute, Mathieu, toi et moi, on a déjà parlé par le passé, j'ai eu la chance de t'interviewer, mais pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, parle-nous de ton background, de ton cheminement, où est-ce que tu as commencé à jouer au football et de quelle façon tu t'es retrouvé à l'Université de Syracuse?
Moi, dans le fond, mon cheminement, c'est un peu particulier, là, comment je me suis rendu à Syracuse. Dans le fond, moi, j'ai commencé à jouer au football pour la polyvalente Le Boisé à Victoriaville. En fait, c'est une ligue scolaire. J'ai joué pour les Vicars de Victoriaville. J'ai fait tous mes 5 ans là-bas. Après ça, avec le recrutement du cégep et tout ça, j'ai pris la décision d'aller jouer en division 2 pour le cégep de Thetford. J'ai fait 2 années là-bas. L'été de ma première année, on a eu une invitation à faire le camp à Syracuse. Quand je suis arrivé au camp, je m'attendais à tomber en rien. Je me suis jamais fait recruter par une université américaine. J'arrive au camp, je pensais faire un trip d'amis en boys. J'arrive au camp, je voyais que j'avais une opportunité de dominer et peut-être de faire tourner des têtes. Donc, j'ai donné mon 100%, je suis allé à fond. Puis après le camp, j'ai eu des intérêts de quelques universités. Après quelques semaines, j'ai commité à l'Université de Syracuse. Puis là, j'entends ma 4e année, donc ma 6e.
Oui, puis tu n'as même pas regardé du côté d'autres universités. Tout de suite, toi, ton choix, c'était Syracuse. Est-ce que tu as visité d'autres campus ou, étant donné que Syracuse était la première équipe qui t'a démontré de l'intérêt, tu t'es dit, regarde, je vais continuer avec l'Orange?
Exact. Dans le fond, moi, l'Orange, là, depuis que je suis petit, tu sais, des Pat Davis, les gars qui ont pavé le chemin pour nous, les Québécois. Dans le fond, tu sais, quand j'ai eu mon offre de Syracuse, proche de la maison, conférence ACC. Je joue contre des top 5 teams à chaque année. Puis la relation que j'ai bâtie avec les entraîneurs, juste en un camp, c'était inimaginable. Donc, tu sais, quand j'ai eu l'offre, là, j'ai commité tout de suite, puis je ne le regrette pas après 4 ans.
Oui, bien justement, tu viens de le dire, tu en es à ta quatrième année déjà dans l'uniforme de Syracuse. Corrige-moi si je me trompe, mais tu avais obtenu du temps de jeu dès ta première saison, là, me semble.
Ouais. J'ai ma freshman year, ma première année en 2019. J'ai eu la chance de faire mon premier départ contre l'Université de Floride, les Seminoles, Florida State. Donc, ça a été mon premier départ, puis j'ai pas débarqué du terrain depuis.
Ouais, puis là, tu joues à la position de bloqueur à gauche ou bloqueur à droite? Quelle est ta position favorite?
Moi, j'ai commencé à Syracuse, quand j'ai fait mon premier départ, j'étais bloqué à droite. Je suis resté bloqué à droite jusqu'à mi-saison de l'année 2020, l'année COVID. Après ça, j'ai transféré à gauche. Puis depuis ce temps-là, là, je suis bloqué à gauche. Puis c'est là que je me sens plus confortable. Puis c'est là que j'aimerais jouer au prochain niveau aussi.
Ben justement, parlons-en du prochain niveau. Là, tu vas entamer ta 4e saison. Tu pourras avoir la possibilité de revenir pour une autre saison. Je sais que tu as comme objectif d'être repêché par une équipe dès la saison prochaine. Donc, parle-moi de tes ambitions, là, justement, parce que je crois que tu as vraiment dans ta mire de poursuivre ta carrière du côté de la NFL.
Exact. Moi, dans le fond, c'est juste en parler, j'ai des frissons. Là, c'est un rêve de petit gars. Je m'en souviens, on était à la maison avec mes amis, on regardait le NCAA comme si c'était le Super Bowl, là, puis on regardait la NFL. C'est vraiment choyé de savoir qu'un jour, je vais pouvoir atteindre ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir avant de y arriver, mais tu sais, je suis choyé d'être dans cette position-là parce que je sais qu'à la maison, c'est pas tout le monde qui a la chance. Donc, c'est sûr que pour mes amis à la maison, pour la famille, tout ça, c'est sûr que je fais ça pour eux, puis je vais continuer à travailler, puis la NFL, on se croise les doigts pour l'année prochaine.
Mathieu, dis-moi, à quel point tu es inspiré par un joueur comme Benjamin Saint-Just, un autre Québécois qui fait carrière dans la NFL, Laurent Duvernay-Tardif a gagné le Super Bowl avec les Chiefs il y a quelques années, Anthony Auclair, en tant que joueur non repêché, connaît une très belle carrière. Il en est rendu à quoi? Sa sixième, septième saison maintenant dans la NFL. Alors, à quel point de voir les performances de ces joueurs-là te motive à atteindre ton rêve?
Ben, c'est sûr, moi, personnellement, ça me motive beaucoup. Voir des gars comme Benjamin Saint-Just, Laurent et Anthony faire leur chemin dans la NFL, c'est sûr que je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que tous les jeunes au Québec regardent ces gars-là et ça leur donne motivation. Puis je pense que juste voir nos athlètes québécois performer au plus haut niveau de football qu'il y a au monde, c'est vraiment quelque chose de gros. Puis je pense que personnellement, moi, ça me donne une extra motivation.
Oui, bien justement, motivation. C'est ta quatrième saison qui s'en vient. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu passes ton été? Tu es présentement sur le campus de l'Université Syracuse. Alors, comment tu passes ton été et de quelle façon là, tu te prépares afin de connaître ta meilleure saison dans l'uniforme de l'Orange?
C'est sûr que j'ai adapté des nouvelles habitudes, que ce soit au niveau de la nutrition, au niveau de mon sommeil, comment je prends soin de mon corps. C'est beau l'entraînement, soulever des poids, puis courir vite, mais il y a beaucoup de choses qui viennent autour de ça. C'est les saines habitudes de vie que je pense qui vont faire la différence, qui vont me séparer entre les différentes accords au draft l'année prochaine. Puis ça va m'aider là, dans mon cheminement.
Ouais, ben c'est excellent ça. Je suis toujours agréablement surpris de voir à quel point ça a changé l'approche au football. Dans mon temps, la nutrition, on nous parlait pas de ça. Je me souviens, les entraîneurs voulaient que je gagne du poids durant un été. Comme toi, je passais l'été sur le campus. Ils m'avaient recommandé de manger des sandwichs au beurre de peanut et à la confiture avant d'aller me coucher pour prendre du poids. Imagine-toi. Imagine-toi. Les choses ont changé. Ouais. J'espère qu'on t'a pas conseillé ça.
Non, on ne va pas conseiller ça, mais c'est vraiment les petites choses que des fois les gens pensent que ça fait pas la différence, mais bien manger et dormir bien, ça va faire la différence en tes performances à la salle de musculation et sur le terrain là, quand on a les courses d'équipe. Donc, c'est quelque chose, j'ai vraiment vu la différence. J'ai vraiment vu une différence en ma première année. Quand c'est ta première année, tu es là, t'es la première fois sur le campus, tu manges un peu du restaurant, tu comprends, mais quand là, je suis habitué, fait que là, m'entendre ma quatrième année, je vois vraiment un pic de performance là, juste par changer certaines habitudes là, qui paraissent banales.
Ben oui, c'est ça. Tout ça, ça vaut la peine. Ça rapporte après ça sur le terrain, hein, comme tu viens de le dire. Dites-moi, quels sont vos objectifs d'équipe cette année? Parce que je sais, bon, pour Lawrence, ça a été difficile hein, au début de ta carrière, la saison 2020. Ouais. Ça avait été très difficile, notamment avec la pandémie. Il y avait des cas de COVID à toutes les semaines. Mais là, l'année dernière, vous êtes replacé. Donc, à quoi on peut s'attendre du côté de l'Orange dans la conférence du ACC qui demeure très relevée?
Mais notre équipe, on est choyé parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent comparé aux autres années. Là, je pense que c'est une des équipes les plus talentueuses que l'Orange a eues depuis beaucoup de temps. Là, on a All-American running back, All-American linebacker, on a deux All-ACC corners. Moi, j'ai eu la chance d'être sur l'All-ACC l'année passée. Notre D-line est jeune, mais je pense que ce que tu peux t'attendre de cette année, c'est l'année passée, ce qui est arrivé, c'est qu'on a perdu trois matchs aux dernières secondes qui auraient pu changer notre saison de A à Z. On aurait pu être 8-5 comme on était 5-7, tu comprends? C'est vraiment ces trois games-là qui nous ont mis un peu dans le trou. Puis, tu sais, sur l'affiche, ça paraît un peu au moins 5-7, mais tu sais, il y a trois défaites là, qui ont été vraiment crève-cœur à la dernière seconde. Mais c'est correct parce que je suis choyé qu'on a eu ça l'année passée parce que là, maintenant, ça nous met, excusez mon anglicisme, une chip on your shoulder. On va attaquer la
motivation supplémentaire.
Exact. on va attaquer l'année prochaine. Puis je pense que les leaders de notre équipe, c'est plein de gars qui ont des aspirations à la NFL. Donc, c'est des leaders qui sont vocaux, qui lead par l'exemple. Donc, je pense que tu vas avoir une équipe de l'Orange qui donne beaucoup d'efforts, puis qui, malgré notre horaire qui est vraiment, vraiment dur cette année, on va donner à 100%.
Oui, puis vous avez quelques Canadiens au sein de la formation. Il y a même un autre Québécois, Ben Labrosse, un ancien cheetah du Cégep Vanier, qui est là notamment.
Dami Alford aussi, receveur, qui joue pour l'Albifio. Lui aussi a eu beaucoup d'enjeux l'année passée. Donc, c'est quelqu'un qu'on va voir aussi l'année prochaine, c'est sûr.
Bon, ben écoute, Mathieu, je ne vais pas prendre plus de ton temps. Je sais que tu es occupé, mais je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation de participer au podcast. Je te souhaite d'un bel été, d'avoir le temps de profiter de l'été, mais de surtout de continuer à travailler fort dans la salle de musculation, sur le terrain, à regarder des vidéos afin de t'améliorer et de connaître la saison que tu espères connaître et que ça va te mener à être repêché lors du prochain repêchage de la NFL. Écoute, porte-toi bien puis merci encore une fois d'avoir participé au podcast.
Ben, merci beaucoup à toi, Didier, puis je continue à écouter les podcasts chaque semaine.
Ouais, parfait, excellent. Continue de télécharger le podcast et de répandre la bonne nouvelle. OK? Porte-toi bien. Bon. Allez, salut, bonne fin de journée. Alors, c'était Mathieu Bergeron, bloqueur à gauche, partant de l'Orange de Syracuse. Bien sûr, on va suivre les activités de l'Orange et de Mathieu tout au long de la saison. On espère qu'il va connaître une excellente saison. On va se tourner, avant de se tourner, oui, du côté des Alouettes et de la Ligue canadienne, je l'ai mentionné lors de mon entretien avec Mathieu. Il y a Benjamin Saint-Just qui a tenu son camp pour les jeunes à Laval au cours du week-end. J'ai eu la chance d'aller faire un tour là-bas samedi matin et de tourner un reportage. Et écoutez, il y a près de 500 jeunes qui se sont présentés, se sont inscrits à ce camp de football. Et c'était vraiment un camp de football unique pour les jeunes. Parce que non seulement il y avait Benjamin, mais il y avait ses amis qui sont également des joueurs dans la NFL, qui étaient là, notamment à Quilipe, Luigi Villain, qui est un ailier défensif canadien, qui porte les couleurs des Vikings du Minnesota, puis bien sûr, un ancien choix de première ronde des Colts d'Indianapolis. Il y avait des joueurs de la Ligue canadienne également qui étaient là, dont des joueurs des rangs universitaires américains. Donc, d'avoir ces gens-là, ces jeunes joueurs-là qui étaient là afin de coacher les plus jeunes, l'avenir, la relève du football québécois, c'était vraiment quelque chose de beau à voir. Il y avait plus de 100 bénévoles, donc il y a plusieurs gens qui ont mis l'épaule à la roue afin de tenir cet événement. Et Benjamin, lui, c'était un de ses objectifs depuis qu'il avait été repêché. Je me souviens que j'avais interviewé. Et puis immédiatement, lorsqu'il avait été repêché par Washington, eh bien, il avait dit qu'il aimerait tenir un camp de football au Québec afin de redonner à la communauté. Et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est la première édition de son camp. Il espère que ça va être un rendez-vous annuel. Mais je crois que ça a été un succès, le camp de Benjamin Saint-Just, et que c'était seulement la première édition de plusieurs autres camps auxquels on a assisté. Donc, vraiment, une belle réussite de la part de Benjamin Saint-Just. C'était bien de le voir redonner à la communauté de cette façon-là. J'ai eu la chance de parler avec son père. Il m'a dit, écoute, c'est Benjamin qui s'est occupé de tout l'organisation. Alors, vraiment, ça vaut la peine de le féliciter. Et on espère l'avoir là au podcast au cours des prochaines semaines comme invité, du moins peut-être durant le camp de Washington. On va voir. Maintenant, on va se tourner du côté de la Ligue canadienne de football. On va parler des Alouettes, hein, parce que comme je le disais tout à l'heure, comme vous le savez maintenant, ça bougeait là, du côté des Alouettes durant leur semaine de congé. Et c'était prévisible. Hein. Après 4 matchs, les Alouettes qui présentent un dossier d'une victoire et 3 défaites. Et on n'a pas vu d'amélioration du côté de l'équipe, de l'ancienne équipe de Carey Jones, surtout lorsqu'on compare avec la fin de la saison dernière. Parce que si on inclut la fin du calendrier régulier en 2021, la défaite en éliminatoire contre Hamilton et les 4 premiers matchs de la saison régulière, Carey Jones, à titre d'entraîneur-chef, à ses 9 derniers matchs, il n'a gagné que 2 matchs. Donc, les Alouettes ont présenté un dossier de 2-7. Et perdre, c'est une chose, mais c'est de la façon dont les Alouettes perdent régulièrement depuis la saison dernière. C'est la même histoire qui se répète. L'indiscipline, on en a parlé au podcast des dernières semaines. Des nombreuses pénalités, des joueurs expulsés des rencontres. En 4 matchs, on a eu 2 joueurs qui ont été expulsés. Ça ne peut pas arriver. Et le fait qu'on n'est pas capable de terminer les séquences en attaque avec des touchés, l'attaque qui manque de punch, de mordant, malgré le changement de carrière, l'attaque n'est pas vraiment meilleure. Et Kerry Jones est lui-même un ancien carrière, c'était lui le coordinateur offensif également. L'indiscipline, ça relève toujours de l'entraîneur-chef. Alors, Danny Machocha, pour lui, ben, il n'avait d'autre choix que de congédier Kerry Jones et également congédier le coordinateur de la défense, Baron Miles, que Jones avait lui-même embauché à l'époque. Alors, bref, on essaie de repartir à neuf du côté des Alouettes après 4 matchs. Comme je le disais tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est que les équipes de la section S en arrachent vraiment. Ottawa ne fiche aucune victoire et 4 revers. C'est la même chose pour les Tiger Cats de Hamilton. Toronto a une victoire cette année, ça a été contre les Alouettes. Ça pour dire que les Alouettes sont au deuxième rang de la section S. Oui, la section est très médiocre pour l'instant, mais tous les objectifs des Alouettes sont encore là. De terminer au premier rang de la section, de participer aux éliminatoires pour une 3e saison consécutive, tout ça, c'est faisable, mais on va devoir mieux jouer que l'on l'a fait lors des 4 premiers matchs de la saison. Danny Machocha est conscient, mais c'est malheureux d'avoir vu Kerry Jones perdre son emploi, parce que c'est vraiment un chic type. Et peut-être qu'il était trop gentil également, Kerry Jones. En tant que journaliste, moi, je suis heureux d'avoir eu la chance de le côtoyer, de le couvrir régulièrement. Il était toujours disponible, toujours très poli. C'est vraiment un gentilhomme, Kerry Jones, puis je crois que tout le monde qui couvre l'équipe régulièrement ressentait la même chose. Mais par contre, le fait qu'il ait un aussi gentilhomme, je me demande, c'est pas une des raisons pourquoi les Alouettes étaient aussi indisciplinés. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'indiscipline, ça reflète toujours de l'entraîneur-chef. Ça reflète toujours sur l'entraîneur-chef. Et Kerry Jones a tenté de serrer la vis lors du camp d'entraînement. Je me suis entretenu avec Christian Matt, le vétéran en garde, et il m'a dit, oui, Kerry Jones, dès le camp d'entraînement, il avait mis l'emphase sur la discipline. Mais lorsqu'on sait que notre entraîneur-chef est un gentilhomme, et là, s'il arrive la saison d'après, il essaie de serrer la vis, c'est difficile pour les joueurs d'apporter cet ajustement-là. Parce qu'ils savent quel est le tempérament de l'entraîneur-chef de Kerry Jones, à quel point il est gentilhomme. Alors peut-être que s'il tentait de se fâcher ou s'il tentait de passer un message, le message ne passait pas tout simplement cette année du côté des Alouettes. Et lorsqu'on regarde les performances sur le terrain, on a d'autres choix que d'en venir à cette conclusion. La question maintenant, est-ce que les Alouettes vont pouvoir se mettre en marche avec ce changement d'entraîneur-chef, changement de coordinateur en défense? Trevor Harris demeure le carrière partant. Est-ce qu'on va avoir plus d'imagination du côté de l'unité offensive montréalais? Ça va être quelque chose à surveiller. C'est maintenant Anthony Calvillo qui va sélectionner les jeux en attaque lors des matchs. Ça va être un effort de groupe afin d'assembler le plan de match, mais c'est Calvillo qui va sélectionner les jeux à partir de jeudi soir contre Edmonton. Est-ce qu'on va utiliser Vernon Adams? Surtout qu'on a des ennuis près de la zone des buts. Adams est une double menace. Alors, pourquoi pas l'embarquer sur le terrain lorsqu'on est proche de la zone des buts? Étant donné qu'il peut faire mal avec son bras, avec ses jambes. Donc ça donne des maux de tête aux défenses adverses. Le jeu de l'option également devient une option et sur la table lorsque Adams est au poste de quart comparativement à Trevor Harris. Moi, je garderais Trevor Harris comme partant, comme c'est le cas, mais je trouverais une façon d'inclure Vernon Adams dans mon plan de match parce que on a besoin de punch. Il faut essayer de créer quelque chose du côté de l'attaque. Les services de William Stambach manquent énormément à l'attaque des Alouettes, près de la zone des buts. Ça fait jamais de tort de pouvoir miser sur un demi à l'attaque de 230 livres. Alors, Stambach n'est pas là, il ne sera pas prêt à revenir au jeu pendant un bon bout de temps. Alors, pourquoi pas utiliser Adams, faire preuve de plus d'imagination près de la zone des buts du côté des Alouettes. C'est ce que j'ai hâte de voir lorsqu'ils vont affronter Edmonton jeudi soir. Alors, ce sera surveillé. Walter Fletcher sera le demi à l'attaque partant. Joshua Ntui n'est pas blessé. On a décidé d'y aller d'un changement. Alors, Fletcher va obtenir son premier départ dans le champ arrière de l'équipe montréalaise jeudi soir contre les Elks d'Edmonton. Écoutez, les Alouettes sont mieux gagnés ce match-là parce que les Elks sont vraiment pitoyables. Leur seule victoire, ça a été à Edmonton il y a quelques semaines, mais c'était un cadeau à la suite d'un échappé du carrière Dane Evans vers la fin du 4e quart. Edmonton a subi une raclée la semaine dernière contre les Stampeders de Calgary. Les Alouettes vont jouer à Montréal. On vient d'y aller d'un changement d'entraîneur. Ça donne pas plus d'énergie aux joueurs. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre. Edmonton n'est pas une bonne équipe de football. C'est aussi simple que ça. Les Alouettes se doivent de gagner ce match-là, présenté à domicile. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner du côté des hommes de Danny Machocha maintenant et non de Kerry Jones. Parce que ça, maintenant que l'air Kerry Jones, c'est dans le passé, mais une chose que je veux dire en terminant là-dessus, il ne faut pas oublier, oui, Kerry Jones, ça a mal fini, deux victoires seulement ses 9 derniers matchs. Mais malgré tout, les Alouettes ont participé aux éliminatoires pendant deux saisons consécutives avec Kerry Jones à la barre de l'équipe. Ça, c'est pas peu dire, surtout que Montréal avait une disette de 5 ans sans match d'après-saison, sans participation en éliminatoire avant l'arrivée de Kerry Jones au poste d'entraîneur-chef. Alors ça, gardez ça en tête. On va s'en reparler au mois de novembre si les Alouettes ne sont pas en mesure de participer aux éliminatoires. Est-ce qu'on n'a pas peut-être appuyé sur la gâchette trop rapidement en congédiant Kerry Jones? Il y a seulement le temps qui va nous dire les résultats de l'équipe vont parler d'eux-mêmes. Mais il ne faut pas oublier ça. Il a été en mesure d'amener cette équipe en éliminatoire lors de deux saisons de suite. Eh bien, le moment est maintenant venu, oui, de se tourner du côté du fantasy football avec Marc-André Chaloux, fantasy football, bien sûr, de la NFL. Comme je le disais tout à l'heure, comme je le dis depuis environ un mois, depuis qu'on a recommencé le podcast, il n'est jamais trop tard afin de commencer à se préparer en vue du repêchage du fantasy football. Mais là, on enregistre le podcast, Marc-André, on est rendu le 11 juillet. Les camps d'entraînement vont commencer dans un peu moins de 3 semaines. Donc là c'est pas juste parce qu'on est des mordus de football. Il est temps de commencer à faire nos devoirs et à se préparer.
Il n'est jamais trop tard, je dirais même plus. Il n'est jamais trop tôt, Didier, pour commencer à se préparer pour nos repêchages fantasy.
Oui, je suis bien d'accord avec toi. Alors, aujourd'hui, tu nous as préparé à des joueurs sleepers, à des joueurs qui passent sous le radar, qu'on ne parle pas beaucoup en termes de fantasy football en vue de la prochaine saison. Mais tu crois, toi, que ces joueurs-là seront en mesure de remplir la feuille de statistiques? En commençant la position de carrière, quel joueur tu nous suggères d'avoir dans notre mire?
Pour définir sleepers, c'est des joueurs un peu qu'on snob dans vos repêchages fantasy, des joueurs un peu oubliés également qui vont excéder les attentes versus la position que vous les avez repêchés. Et je commence à la position de cœur avec Matt Ryan d'Indianapolis. L'an dernier, il faut le dire, Didier, Matt Ryan, ça a vraiment été une saison de misère. Ça a été la pire de sa carrière. Il a terminé comme carrière numéro 20 au niveau fantasy. Il a obtenu 20 touchés seulement et quand même près de 4000 verges, et ce, sans Julio Jones, sans Calvin Ridley, et avec une ligne à l'attaque, on va dire, pourrite. Quand la ligne à l'attaque est aussi exécrable que ça, on peut faire une faute de français. On peut faire une faute de français lorsqu'on parle de la ligne à l'attaque des Falcons la saison dernière. Mais là, il arrive avec les Colts d'Indianapolis qui ont des outils à sa disposition. Michael Pittman, on en a parlé la semaine dernière. Jonathan Taylor, qui est probablement l'un, sinon le meilleur porteur de ballon en ce moment dans la NFL. La ligne à l'attaque est évidemment cinq fois meilleure que celle des Falcons l'année dernière. Donc, on peut s'attendre à vraiment peut-être un changement. Et l'attaque de Frank Wright, c'est une attaque vraiment basée sur le jeu aérien. C'est une attaque où on utilise beaucoup de passes voilées également. Donc, ça facilite la vie d'un corps arrière. Oui, Matt Ryan, il a 37 ans. Mais si on compare avec Carson Wentz la saison dernière, Carson Wentz a obtenu quand même plus de 3000. Il a obtenu 3500 verges dans cette attaque-là. Il a complété quand même 62% de ses passes. Il a fini, il a été le 14e corps arrière fantasy. Et on peut donc s'attendre à ce que Matt Ryan soit meilleur, en fait, que Carson Wentz à ce niveau-là. Et donc, pour un corps arrière qui est présentement au 19e rang fantasy, je pense que Matt Ryan, avec une bonne saison, si les étoiles s'alignent, si les planètes s'alignent, je pense que Matt Ryan pourrait intégrer peut-être le top 15, voire le top 12 au niveau des carrières fantasy. Il est repêché, il est classé présentement derrière Justin Fields, par hasard, par exemple, qui, les Bears, on sait, je crois sincèrement que l'attaque des Bears, ça va être une attaque exécrable. Je sais que Justin Fields peut courir avec le ballon, mais il n'y a pas juste ça dans la vie. Trevor Lawrence, j'ai hâte de voir avec Doug Peterson, je vais vous en parler tout à l'heure. Tua Tagovailoa, on lui a donné les outils, mais c'est vrai, il faut vraiment que ce soit l'année pour Tua, vraiment, de passer à un niveau supérieur. Mais je pense qu'en termes de valeur sûre, Matt Ryan est un excellent, est un joueur qui passe sous le radar en ce moment. Et ça peut s'avérer un corps arrière en fin de ronde, une sélection en fin de ronde assez payante.
Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. On a vu là, la liste de noms dans laquelle Ryan se retrouvait. Je crois qu'il va être plus productif que tous les carrières qu'on vient de voir, notamment Justin Fields, comme tu l'as mentionné. 37 ans, mais je crois le changement d'air, là, puis il a joué toute sa carrière dans l'uniforme des Falcons. Au moins pour une saison, je crois que ça va lui faire du bien. Et Frank Wright est un bon entraîneur-chef, capable d'avoir des bons plans de match pour ses carrières. Alors, je crois que Ryan pourrait connaître peut-être une dernière saison très productive en termes de fantasy football. Écoute, il ne va pas se faire tabasser comme il se faisait tabasser derrière la passoire de ligne à l'attaque qu'on avait du côté des Falcons. Donc déjà là, j'ose croire qu'il devrait connaître une meilleure saison. Mettons la position de porteur de ballon, demi à l'attaque, quel joueur que tu nous suggères là, d'avoir dans notre radar là, pour le repêchage?
On parlait tantôt de la conférence ACC avec Matthew. Je vais vous parler de Travis Etienne, qui était anciennement des Tigers de l'Université Clemson, qui est maintenant avec les Jaguars de Jacksonville. Premièrement, Didier, il faut oublier le show de boucan qui était Urban Meyer, selon moi, l'année dernière. Cette année, on a embauché Doug Peterson, qui a quand même gagné un Super Bowl avec les Eagles quand même assez récemment. Et il faut dire que Travis Etienne est le porteur de ballon numéro 24 en ce moment et son potentiel est énorme. On a oublié vraiment que ça a été un choix de première ronde des Jaguars l'année passée. Il a juste pas joué. On n'a pas de stats, on n'a pas rien, il s'est blessé, aucun entraînement. Il faut dire qu'encore là, l'attaque de Peterson, c'est une attaque axée sur le jeu aérien. Et Travis Etienne, une de ses belles qualités ou sa plus grande qualité, c'est qu'il est un excellent porteur de ballon pour capter des passes. On compare ses mains, je veux juste faire des comparaisons, à Alvin Kamara. Je ne dis pas que ce sera Alvin Kamara cette saison, mais je pense qu'au porteur de ballon numéro 24, ce sera intéressant puisqu'également James Robinson se remet d'une déchirure du tendon d'Achille. On dit qu'il ne sera probablement pas en mesure de débuter la saison. Donc, vraiment, ça laissera toute la place à Travis Etienne. Et il est talentueux. On le parlait du ACC tantôt, il a obtenu plusieurs records de verges touchées de la conférence ACC lors de sa carrière universitaire. Et, bon, justement, porteur de ballon numéro 24, il est derrière des joueurs comme Josh Jacobs, qui, pour moi, je prends Travis Etienne avant Josh Jacobs, qui est au 23e rang. J.K. Dobbins, ça ne va pas super bien pour J.K. Dobbins. Des échos en provenant de Baltimore en ce moment disent que sa remise en forme ou bref, c'est pas super impressionnant dans son cas. Je pense que je prends Travis Etienne en ce moment devant J.K. Dobbins et Elijah Mitchell. S'il obtient la majorité des opportunités dans le champ arrière des 49ers, ce serait intéressant, mais il y a toujours d'autres porteurs de ballon. On aime vraiment avoir plusieurs porteurs de ballon dans un match au niveau des 49ers. Donc, Travis Etienne, porteur de ballon numéro 24 en 5e, 6e ronde, peut-être 4e ronde, dépendamment de vos repêchages, ben c'est intéressant.
Oui, parce que Etienne, ça a été le grand oublié hein, du côté des Jaguars de Jacksonville. Jacksonville, en 2021, avait deux choix de première ronde. Naturellement, avec le tout premier choix, on a repêché Trevor Lawrence, mais avec notre deuxième choix de première ronde, on avait sélectionné Travis Etienne. Malheureusement, il a subi une blessure à un genou. Mais il demeure un joueur très, très talentueux. Alors, non, j'aime bien ce choix-là de Travis Etienne parce qu'on oublie, c'est comme ça on a oublié à quel point il avait été productif durant sa carrière à Clemson, étant donné qu'il n'a pas joué la saison dernière en raison d'une blessure à un genou. Maintenant, tu as un autre porteur de ballon qui, selon toi, est sous-estimé en ce moment.
Je vais aller plus profondément dans vos fins de repêchage. On parle de 10, 12, 12e ronde, 13e ronde, vraiment.
Okay, et là, c'est signature... deep, deep sleeper.
Deep, deep sleeper.
Oh, okay.
J'essayais de traduire ça en français, deep, deep sleeper. Il y a vraiment une signature qui est passée sous le radar à Kansas City, c'est celle de Ronald Jones. Et c'est intéressant, puisque savais-tu, Didier, que la saison dernière, les Chiefs ont fini bon dernier dans la NFL pour les verges après contact. On sait que Clyde Edwards-Helaire, c'est un petit porteur de ballon. Jerick McKinnon, ce n'est pas sa tasse de thé. Et qui, dans la NFL l'année dernière, Didier, a terminé au premier rang pour les verges après contact? Ben, c'est Ronald Jones. Ronald Jones. Donc, je veux dire, là-dessus, avec Ronald Jones, les Chiefs font vraiment un besoin au poste de porteur de ballon, un porteur de ballon qui peut courir dans les tranchées. Et ça, c'est important dans une attaque aussi prolifique que celle des Chiefs. C'est sûr que, en plus, dernièrement, The Athletic ont mentionné, en provenant de Kansas City, que Ronald Jones est vraiment un sérieux candidat pour le poste de porteur de ballon numéro 1 de l'équipe, au détriment de Clyde Edwards-Helaire. Il faut dire également que Ronald Jones, tu sais, avec l'ajout de Ronald Jones et le départ de Tyreek Hill, on voyait souvent à la porte des loups dans la zone payante, les Chiefs utilisaient, mettons, des jeux au sol avec Tyreek Hill, des petits jeux gadgets, disons. Je pense qu'on pourrait revenir à un style plus conventionnel de course au sol et ça pourrait profiter à Ronald Jones. Je ne dis pas que Ronald Jones sera un top 10 ou un top 15 fantasy, mais je pense que si on utilise Ronald Jones à bon escient dans l'attaque de Patrick Mahomes, je pense que 6, 7, 8 touchés, peut-être 900 verges, ça peut être une belle option pour vous. Et avec un choix de 12e ronde, ben, ça peut être fort utile au niveau fantasy. Ronald Jones est en ce moment le porteur de ballon numéro 38 au niveau fantasy. Donc, il est derrière des joueurs comme Melvin Gordon, qu'on sait qu'il va perdre des opportunités au profit de Javonte Williams, qui est essentiellement le porteur de ballon plus jeune et le meilleur porteur de ballon des Broncos. On voit des noms ici. Chase Edmund aurait la pole en ce moment à Miami, mais on a Raheem Mostert qui est blessé, qui devrait avoir de l'action. On a Sonny Michel. Ramondre Stevenson est derrière, au 37e rang, est derrière Damien Harris. Ken Walker est derrière. On dit, bon, il est repêché devant Ronald Jones, mais on dit que Rashad Penny aura la première chance de se faire valoir dans le champ arrière des Seahawks. Donc, Ronald Jones, vraiment intéressant et à faible coût.
OK, on prend ça en note. Ronald Jones, on l'a vu connaître de bons moments dans l'uniforme des Buccaneers de Tampa Bay. Alors, c'est sûr qu'il ne sera pas la priorité. Ce ne sera pas le joueur sur lequel les collateurs en défense vont mettre l'accent lorsqu'on va affronter les Chiefs de Kansas City. Donc, en théorie, il devrait obtenir des opportunités. Maintenant, il y a deux receveurs de passe qui retiennent ton attention. En commençant par le vétéran Brandon Cooks.
Ça veut-tu dire que Brandon Cooks, avant l'âge de 29 ans, a plus de verges sur réception que Jerry Rice dans sa carrière, a plus de passes captées que Calvin Johnson, et sa moyenne de verges par attrapé est égale à celle de Randy Moss?
Donc c'est le meilleur receveur de la Ligue. C'est ça que tu es en train de me dire. Brandon Cooks est le meilleur receveur de la Ligue. Il faudrait qu'il soit le premier receveur repêché. Là. C'est ça que tu es en train de nous dire.
Je trouvais ça juste fascinant comme stats avec trois joueurs qui sont au Temple de la Renommée ou qui le seront au Temple de la Renommée. Calvin Johnson, y es-tu? Je pense que oui. Hein? Il est derrière moi.
Oui. Intronisé l'année dernière, là, je crois. Ouais. Mais ça me démontre comment les statistiques... Oui, vas-y. Cooks a été très productif. Oui, Cooks a été très productif, mais ça démontre aussi que les statistiques... Le football a tellement changé, premièrement. Si Jerry Rice jouait, je crois qu'il aurait 2000 verges par voie de réception à tous les ans maintenant, là. Ça, c'est un autre sujet. Mais comme quoi, les statistiques ne veulent pas tout dire, mais Cooks a été productif l'année dernière dans une attaque qui n'était pas très prolifique, là, celle des Texans.
Mon point que je voulais amener, c'est que l'an dernier, avec Davis Mills au poste de quart, Didier, Brandon Cooks a été ciblé en moyenne 9,6 fois par match par le quart Davis Mills, qui était à sa saison recrue, il faut le dire. Donc, si on projette ce 9,6 cible-là par match sur 17 matchs, mais ça donne 160, il pourrait être ciblé 170 fois par Davis Mills au cours d'une seule saison. Je ne dis pas qu'il va avoir 170 ballons dirigés vers lui, Brandon Cooks, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une complicité entre Davis Mills et Brandon Cooks. Et pour un receveur qu'on repêche présentement, qui est présentement au 22e rang, c'est vraiment une aberration pour moi. Je pense que Brandon Cooks est vraiment sous le radar et c'est une belle valeur à cette position-là. Et il a fini dans le top 20 à ses deux dernières saisons également. Vous voyez les noms d'avant lui, Amari Cooper. Bon, je veux pas, je prends Brandon Cooks avec tout ce qui se passe, Jacoby Brissett, toutes ces choses-là, Deshaun Watson. Brandon Cooks, pour moi, est devant Amari Cooper. Je préfère Brandon Cooks également à Jalen Waddle. On ne sait pas ce que l'attaque des Dolphins va donner. Jalen Waddle n'est plus vraiment la cible numéro un dans l'attaque des Dolphins. Donc, ce serait. Et Terry McLaurin, vous voyez, en 17e rang, je suis pas convaincu par Carson Wentz du côté des Commanders. Donc, Brandon Cooks, vraiment intéressant pour moi. Puis, je pense que c'est un excellent sleeper cette saison. Un joueur qui peut absolument vous être utile au niveau de votre fantasy.
Ouais, tout va dépendre du développement de Davis Mills. Tu mentionnais son nom tout à l'heure. Mais je sais, pour en avoir parlé avec Anthony Auclair il y a quelques mois de ça, à la fin de la saison régulière. Lui, il était très encouragé par qu'est-ce qu'il a vu de Davis Mills, pas juste dans les matchs, mais durant les séances d'entraînement, et surtout de la façon que Mills est revenu en force. Je ne sais pas si tu te souviens, on l'avait cloué au banc à un certain moment donné, et il a pris ce temps-là pour prendre du recul, et lorsqu'il est revenu au jeu, eh bien, il était beaucoup plus productif. En tout cas, Anthony semblait énormément l'aimer. Alors, si Davis Mills peut continuer de progresser, il n'y a aucun doute que la production de Brandon Cooks devrait récompenser ses propriétaires en termes de fantasy football. Et maintenant, le dernier joueur que tu nous recommandes, c'est un autre receveur de passe qui, lui, ben, va avoir l'occasion de jouer avec rien de moins que le meilleur carrière de l'histoire de la NFL cette année.
Encore là, Didier, deep, 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 deep and delicious,
deep
Russell
sleeper.
Gage.
Ouais, ouais.
Deep and delicious, Russell Gage, comme un gâteau. il est présentement
Aussi
classé au 40. Oui,
moelleux,
chocolat.
Ouais. Oui, ouais, mais c'est quoi, ces gâteaux-là, là, c'était les meilleurs gâteaux au monde quand j'avais 7-8 ans. Puis, il y a quelques années, j'en ai acheté un en pensant que ça goûtait aussi bon. Puis, mon Dieu, quand t'es rendu adulte, c'est plus aussi bon, c'est plus... En tout cas, ça goûte cheap un peu. Ouais, je ne sais pas si t'as mangé ça récemment, là, mais...
Il y a plusieurs choses que des fois tu dis ah je vais en acheter à l'épicerie, c'est super bon. Je me souviens, je m'en souviens à mon comme les raviolis Chef Boyardee, not a sponsor. Je veux dire, dans mon enfance, j'ai mangé ces canettes.
Je pense pas qu'ils vont devenir un sponsor.
Mange
ouais,
pas
c'est
ton enfance,
aussi bon que quand t'avais 8 ans.
Bon.
Hein?
Non. Non.
Ah, c'est ça. Non. Ouais, fait que ces gâteaux-là, ça a été la même chose. Écoute, je pense que j'en ai pris 2-3 bouchées puis je l'ai jeté. C'était comme mon Dieu, c'est pas mangeable. Mais en tout cas, comme quoi que les goûts changent en vieillissant. Mais en parlant de vieillir, bon, Tom Brady et le carrière de Russell Gage, maintenant qu'il porte les couleurs des Buccaneers de Tampa Bay, Gage vous a démontré toutefois de bonnes choses au cours des dernières années lorsqu'il jouait à Atlanta avec Matt Ryan.
Et Tom Brady l'a personnellement recruté pour venir à Tampa Bay durant l'entre-saison et durant les minicamps, il a été élogieux à l'endroit de Russell Gage. J'ai écrit sur le tableau Russell Game, une petite faute, mais c'est un gamer, Russell Gage. mais il faut aussi parler de l'absence potentielle de Chris Godwin. C'est un peu ça aussi qui a fait augmenter la valeur de Russell Gage en ce moment. Adam Schefter a dit dernièrement que Russell Gage, l'objectif de Russell Gage, de Chris Godwin, c'est d'être à son poste pour le premier match de la saison. Il se remet d'une déchirure du ligament croisé antérieur. On sait que ça peut être long, ce genre de blessure. Personnellement, j'en doute, mais bon, on verra. On verra bien dans le cas de Chris Godwin, mais ce que je veux apporter comme point, c'est que Brady, l'année dernière, a tenté, attache-tatuc, a tenté 719 passes l'année dernière. Et ça, c'est un sommet dans la carrière de Tom Brady en une saison. Donc, le point que je veux apporter, c'est qu'il y aura Mike Evans, c'est qu'il y aura peut-être Chris Godwin, mais si Chris Godwin se retrouve sur la liste des blessés pour les 4 premiers matchs ou les 6 premiers matchs de la saison, ben Russell Gage aura l'opportunité de se faire valoir comme receveur numéro 2 de l'équipe. Et lorsqu'un carrière lance avec une attaque aussi prolifique par la passe avec Tom Brady, je pense que Russell Gage est à la position 46 en ce moment dans vos repêchages. Je pense que ça peut s'avérer à tout le moins une bonne affaire pour le début de saison. Et que ce soit un receveur 2 ou un receveur 3 dans l'attaque des Buccaneers, je pense que Russell Gage pourrait connaître du succès. On voit les noms repêchés devant lui, qui sont classés devant lui. Treylon Burks, je ne suis pas convaincu encore de ce que va avoir l'air l'attaque des Titans. Chase Claypool, je en ai déjà parlé. Je trouve que Chase Claypool est en perte de vitesse en ce moment avec les Steelers. Hunter Renfrow a connu une excellente saison avec les Raiders l'année dernière. Mais avec l'ajout de Davante Adams, il devient la troisième cible dans l'attaque pour Derek Carr, dans l'attaque des Raiders. Donc, ce serait intéressant. Christian Kirk, on parle des Jaguars de Jacksonville. Est-ce que Trevor Lawrence va connaître la grande éclosion à l'an 2 de sa carrière? À voir. Donc, Russell Gage, si Chris Godwin arrive à manquer du temps, comme je le disais, ça peut être vraiment un solide joueur qui contribue à votre équipe fantasy, spécialement en début de saison.
Écoute, si c'est Tom Brady qui a demandé à l'avoir au sein de l'équipe, comme tu dis, qu'il l'a recruté, c'est que Brady doit avoir quelque chose en lui. Et s'il y a une chose qu'on sait de Tom Brady, s'il n'a pas confiance en ses receveurs de passe, il ne va pas leur lancer le ballon. OK? Donc, s'il a recruté Russell Gage, c'est qu'il doit vraiment l'aimer. Alors, moi, j'ai l'impression que Gage va être ciblé par Brady. Non, écoute, c'est un deep, deep, deep sleeper. On en parle le 11 juillet. Mais qui sait, il va peut-être faire gagner des semaines à des gens une fois que le mois de septembre va être arrivé. Ça va être à surveiller.
On parle de receveur 3 de flex là, en ce moment. Tu sais, je veux dire, on ne parle pas de receveur numéro 1. Rappêchez pas Russell Gage en 3e, 4e ronde. Mais tu sais, encore là, à partir de la 10e ronde, je pense qu'en ce moment, vous pouvez facilement faire pire dans vos repêchages.
Bon, ben écoute, ça va être à surveiller tout ça. Écoute, Marc-André, ben on a fait le tour. Je te remercie encore une fois pour tes conseils Fantasy Football cette semaine. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que tu vas nous préparer pour la semaine prochaine. Alors, pour les gens qui nous ont regardés ou qui téléchargent le podcast à toutes les semaines, comme le fait notre ami du podcast, Mathieu Bergeron, ben écoutez, on vous remercie de télécharger le podcast, de nous écouter. On en espère que cet épisode du podcast Sac du Cœur vous a plu et on se reparle la semaine prochaine.